Merci. Merci Rachel. Encore une fois, c'est trop. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi de te découvrir, puisque maintenant on se tutoie, on a appris à se tutoyer. Et donc, oui, non, mais c'est vrai. Mais enfin, en tout cas, voilà, j'ai découvert une équipe magnifique. Rachel, Julien, donc c'est vous en fait qui m'avez donné cette chance. Donc j'espère voilà, continuer à échanger avec vous et avec aussi le public ici présent. Je vois Marion Bertin et la thèse de Marion est aussi attendue et j'espère aussi te lire bientôt, Marion. Donc je vais commencer cette géopolitique du coup, plutôt la continuer en rebondissant un petit peu sur les deux ouvrages que Rachel vous a présentés. D'abord, Les fragments d'une histoire globale de l'art, qui est un manuscrit de cours du CPES de PSL. Et je remercie aussi les étudiantes et étudiants qui ont participé à ce projet. Je prendrai en fait pour aujourd'hui un chapitre, quelques exemples en fait pris du chapitre Orientalisme contre Orientalisme, le chapitre numéro 3. Et dans la thèse qui est parue au Classique Garnier, pour celles et ceux qui étaient là, la dernière fois, je vais revenir très rapidement en fait sur le principe qui a guidé ma thèse. En fait, je voulais étudier le marché de l'art et j'avais besoin de prix, sauf que c'est assez compliqué d'avoir des prix dans les archives des galeries, puisque tous les marchands n'ouvrent pas leurs archives et lorsque ces marchands ouvrent leurs archives, comme ça a été le cas pour un couple de marchands avec qui j'ai pu travailler. Quand ces archives sont ouvertes, les prix souvent ne sont pas donnés ou ne sont pas accessibles. Donc j'ai dû trouver une façon en fait d'accéder aux prix et c'est comme ça que j'ai travaillé beaucoup sur les procès-verbaux de vente aux enchères publiques. Ces procès-verbaux sont disponibles dans les fonds des commissaires-priseurs, principalement parisiens. Il y en a également un fonds à Bordeaux. Et donc quand on ouvre ces procès-verbaux, et pardon hein, si je répète pour celles et ceux qui étaient présents. Donc, quand on ouvre ces procès-verbaux, on voit le numéro dans le catalogue de vente, le prix d'adjudication, la liste des acquéreurs et leurs adresses, ce qui permet par exemple ici de voir que Nodler a acheté le lot numéro 2, c'était un autre tableau, il l'a acheté 18 000 francs. Et donc, le principe de ma thèse, ça a été d'associer les procès-verbaux et les catalogues de vente pour certains segments du marché de l'art, par exemple les objets dits orientaux. Et donc j'ai fait ce travail sur un tableur Excel géant entre 1830, donc c'était le début en fait de disponibilité de mes procès-verbaux. Grosso modo, on peut les avoir un peu avant, mais pour des raisons en fait de sources, d'autres sources, j'ai commencé en 1830. Et donc j'ai terminé en 1939, date du début de la thèse d'Emmanuel Polak, que vous connaissez sûrement, en fait, c'est Le marché de l'art sous l'occupation, un ouvrage magnifique. Donc je me suis arrêtée là où Emmanuel Polak a commencé, et j'ai effectué ce travail pour un certain nombre d'objets, et notamment ces 4471 objets dits orientaux, et c'est ce segment-là du marché de l'art que je vais essayer de présenter devant vous aujourd'hui, mêlé à des considérations plus picturales sur l'orientalisme du premier livre que j'ai fait avec mes étudiants du CPES. Donc voilà le programme du jour. J'espère que vous le trouverez enthousiasmant et que enfin, voilà, que ce sera pas trop embêtant. Donc, orientalisme, pourquoi un pluriel? Et c'est ce qui va nous guider tout au long de cette séance. Pourquoi un pluriel? Parce qu'il n'y a pas eu un type d'orientalisme, mais plusieurs. Et ces différents types d'orientalisme, en fait, ont été notamment déterminés par le marché. Donc, orientalisme, je tire ce terme en fait de Edward Said, qui est un grand historien, aussi un homme. Il a beaucoup étudié la littérature. Enfin, c'était un homme complet, un grand intellectuel, et il montre que l'orientalisme est défini par l'Occident, ou plutôt que l'Occident se définit par rapport à l'Orient, dans une forme de reflet, en fait, dans un dialogue plus ou moins fantasmé, enfin, plutôt plus que moins. Et c'est la vision de l'autre, de l'Orient, en fait, qui, par effet, disons, inverse, va élever l'occidental ou l'occidental-le. D'accord? Donc il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup aussi de méconnaissances, d'asymétrie d'information dans cette définition de grandalisme, et cette asymétrie d'information, ce fantasme qui est également déterminé par la géopolitique et qui est également déterminé par les objets échangés, mis en vente, les objets que l'on touche, que l'on ressent. Donc c'est cet environnement-là qu'on va essayer de suivre pendant cette heure tous ensemble. Donc bien évidemment, l'orientalisme ne commence pas au début de ma thèse. Il y avait un orientalisme très présent au XVIIIe siècle. Et là, je vous présente ce tableau de Jean-Étienne Lyotard, portrait de Mister Levette et de Mademoiselle Glavany assis sur un divan qui se trouve au musée du Louvre. Et on avait parlé le mois dernier des chinoiseries. Vous vous souvenez, on avait évoqué comment l'Occident voyait, percevait l'Asie. On avait parlé de cette forme d'exotisme qui était aussi pour l'Asie, pour la Chine, très liée au goût, au commerce du thé, en fait, au goût. Quand on prenait le tea time dans les porcelaines, c'est un peu pareil. On parlait de chinoiserie au XVIIIe siècle et on parle de turquerie à ce moment-là, au XVIIIe siècle. La turquerie, disons, est au Moyen-Orient ce que la chinoiserie est à la Chine pour l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de fantasme sur cet Orient imaginaire. Et vous voyez là deux amis du peintre Jean-Étienne Lyotard. Mademoiselle Glavany était, si mes souvenirs sont bons, la fille du consul, je crois, anglais à Constantinople. Et Mister Levette était un marchand occidental. Jean-Étienne Lyotard vivait, il me semble, à Genève, mais il a beaucoup travaillé à Constantinople, c'est-à-dire à Istanbul. Et ici, vous voyez deux figures en fait de l'intelligentsia, en fait, de la haute société occidentale, qui sont à Constantinople et qui vont se déguiser en orientaux. Donc, vous voyez, il y a également tous les accessoires qui font oriental, et on retrouve tous les éléments en fait tous les cinq sens. À la fois donc la musique, puisque Mademoiselle Glavany porte est en train de jouer d'un instrument oriental, une sorte de luth ou de sitar oriental. Monsieur Levette est en train de fumer une pipe très longue. Ils sont également, enfin, le toucher est totalement rendu par les textures, également l'odorat avec une sorte de brûle, enfin de brûle-parfum, une sorte d'encens. Et on a également la vue, enfin, tous les sens qui sont représentés ici, avec une sorte de méconnaissance, puisque vous voyez que un divan en fait, ne représente pas. Enfin, à l'époque, il y a un problème de sens, puisque dans l'Empire ottoman, le divan, c'était une sorte d'assemblée, alors que ce n'était pas une sorte de siège long. Donc vous voyez cette méconnaissance qui est au cœur même du titre. Donc la mode des turqueries a, disons, traversé, mettons, le XVIIIe siècle, et c'est à 1830 également, 1830, le début de notre exploration, est marqué par le début de la conquête de l'Algérie. Donc une nouvelle page va s'ouvrir dans l'histoire de l'orientalisme. Et cette nouvelle page, elle apparaît, enfin, de manière très très forte au salon de peinture à Paris, puisque Delacroix expose son chef-d'œuvre, un de ses chefs-d'œuvre au salon, qui est les femmes d'Alger dans leur appartement. Donc vous voyez, la géopolitique se trouve un écho très fort au salon où Jeanne Delacroix avait voyagé au Maghreb. Et ici, il va placer au cœur en fait, du salon parisien son orientalisme à lui. Et qu'est-ce qui va changer par rapport au tableau qu'on a vu précédemment? On a toujours cette ambiance un peu intime, intimiste, une sorte du harem, du salon, quelque chose qui est interdit, puisque l'Orient, il y a une forme d'interdit, de sensualité qui traverse en fait la fascination occidentale pour l'Orient. Cette idée en fait d'un endroit, d'une sorte d'alcôve fermée au grand public, qui sera accessible qu'à un certain nombre d'initiés, dont le peintre. Et il y a un effet un peu pipe-show, en fait. Le tableau, la scène, nous fait pénétrer en tant que spectateur dans un endroit qui nous est interdit. Donc c'est cette fascination-là pour le franchissement d'une sphère qui est fermée en fait au public. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez commun, mais en l'occurrence pour Delacroix, ce qui va changer, c'est cette fascination aussi pour les couleurs en fait. Et c'est ça, enfin, la touche de la croix, si je puis dire, c'est cette révélation de la couleur, presque c'est du fauvisme avant l'heure, hein, si je puis dire, c'est l'Orient égale les mille et une nuits, les couleurs, et une forme de kaléidoscope qui va, disons, faire contraste avec la grisaille parisienne, et aussi la grisaille des grisailles académiques, en fait, du dessin. Voilà. Donc, on est dans ce contexte-là. Et qu'est-ce qui va se passer en fait au niveau du marché? Et en quoi aussi le marché va alimenter, va transformer la vision de l'Orient? Donc trois temps vont guider en fait notre histoire, trois temps en fait chronologiques. C'est pour ça que les trois parties sont autant de moments dans la chronologie. D'abord, je montrerai un héritage avec Delacroix, un héritage avec la colonisation de l'Algérie. Mon premier point, l'Orient comme trophée. Et on verra que ce qui l'orientalisme, parce que je décline les orientalismes, vous aurez compris ce raisonnement. L'orientalisme ici, c'est un orientalisme tout militaire, un orientalisme de conquête, un orientalisme qui s'appuie, disons, sur une forme de fascination pour les armes, pour des lames, et on verra un certain type d'armes qui est vraiment très apprécié. Le deuxième temps, autour, ouais, des années 1870-1880, l'hôtel Drouot, donc le lieu de vente à Paris, se transforme en un bazar. Bon, j'ai fait un petit jeu de mots avec le BHV, qu'on ne citera pas, et le bazar de l'hôtel Drouot. Un lieu, et l'hôtel des ventes devient une forme de marché où différents types d'objets orientaux, dits orientaux, parce qu'on ne parle pas d'art de l'islam, on ne parle pas d'art musulman, on parle d'objets orientaux. Dans ce deuxième temps-là, qui s'ouvre autour des années 1870, on est dans une forme de bric-à-brac avec des objets orientaux qui ne sont pas forcément identifiés. Et ce qui prime à ce moment-là, c'est l'exotisme. Et ça, si vous étiez avec moi la semaine dernière, enfin, pardon, le temps passe vite, le mois dernier, ça, c'est la même chose pour l'Asie. On avait des bibelots asiatiques, chinois ou japonais, un peu indifférenciés, et c'est la même chose pour les objets dits orientaux. Donc on a une forme de parallélisme, de concordance des lieux et des temps. Et enfin, comme pour les objets dits asiatiques, le connoisseurship, c'est-à-dire une forme d'érudition, d'attention sur ces objets-là, une forme de connaissance, de soif de savoir, mais ce connoisseurship va changer l'orientalisme, va ch changer en fait le regard qu'on porte sur l'Orient, et on va voir que comme pour les objets asiatiques, ce segment-là va se transformer sous l'impact de certains connaisseurs, de certains érudits qui vont voilà, enrichir le savoir, le peu de savoir qu'on avait à l'époque sur cet Orient au sens large. Mais contrairement aux objets dits asiatiques, ce connoisseurship, c'est un connoisseurship dit de niche, puisqu'il y a très très peu d'intellectuels ou de collectionneurs qui vont s'intéresser à l'Orient. Contrairement aux objets asiatiques où là c'était le connoisseurship touchait beaucoup plus de monde. Voilà à peu près pour le plan. Donc on commence avec l'Orient comme trophée. Et je vais commencer par quelque chose de très aride. Pardon, pas d'image mais un graphique. Et c'est pas, disons, même à l'oral pour celles et ceux qui vont écouter l'audio, il faut me croire sur parole. Voilà. Donc ici j'ai mis une distribution de prix d'adjudication de toutes les. De tous les segments que j'ai utilisés, que j'ai étudiés entre 1830 et 1939. 1830 et 1839, pardon. Donc j'ai ce que j'ai mis les prix à plat. J'ai mis tous les prix en fait, d'œuvres, d'objets qui n'avaient pas été rachetés. Donc je prends vraiment les transactions où il n'y a pas de rachat de la part du propriétaire. Et en fait, je vais prendre des distributions. Donc je vais regarder en fait la distribution des prix, l'éventail des prix. Donc je vais prendre cette échelle de prix, je vais regarder, en fait, je vais la couper en quarts, d'accord? Et je vais regarder dans cette distribution le prix, donc le point ici, c'est le prix médian, c'est-à-dire le prix d'adjudication au-dessus duquel 50% des objets en question sont adjugés. et en dessous duquel 50% des objets sont adjugés. Donc en l'occurrence, si on prend par exemple ici les antiquités grecques, on voit que 50% des antiquités grecques se vendaient au-dessus de 100 francs à l'époque. Et donc 50% en dessous, d'accord? Donc là, on va faire pareil pour le premier quart. Donc la borne inférieure, ce sera avec le petit trait, ce sera le premier quartile, c'est-à-dire le prix d'adjudication, disons, en dessous duquel 25% des objets ont été adjugés. Et je fais pareil pour le trait supérieur, donc 25% au-dessus duquel, enfin, le prix au-dessus duquel 25% des objets ont été achetés, enfin, adjugés. Ce qui fait que, vous voyez, ce rectangle-là, c'est l'éventail de prix, la fourchette de prix de 50% des objets, de la moitié des objets vendus de ce segment entre 1830 et 1939. Donc, ce qui est assez intéressant, et ça m'a beaucoup surprise, vous voyez qu'il y avait principalement des armes dites orientales qui étaient vendues, en l'occurrence des armes dites persanes et des armes dites turques. Donc, vous voyez aussi dans cette dénomination, l'aspect très flou. Persan, ça veut dire quoi? Il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de chronologie, on est de l'indistinction. Et surtout, c'est faux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas des armes turques à l'époque. On parlait d'Empire ottoman. En fait, c'est très indistinct. Mais ce qui m'a frappé, je ne sais pas si vous, ça vous frappe, mais ça a été une des grandes surprises dans ma thèse, c'est que, regardez, les armes persanes se vendent environ 50% entre 40 francs et 300 francs, bistodénas. Et les armes turques, entre, allez, 45 francs et 160 francs. Donc, on est dans le franc de 1830. Regardez les tableaux. L'éventail pour les tableaux, donc la moitié des tableaux, ils se vendent entre, allez, 30 francs et 100 francs. Donc, ça veut dire que la moitié, il y a beaucoup d'armes turques ou persanes qui se vendent donc beaucoup plus cher, en fait, que les tableaux. Ce qui est assez fou, mais moi, ça m'a vraiment surprise de dire qu'à l'époque, on était prêt à payer beaucoup plus pour des armes persanes ou turques que pour des tableaux. Regardez, bon, les dessins, ils chutent. Les sculptures, n'en parlons pas. La moitié des sculptures se vendent entre 10 et 30 francs, 25 francs. Alors que l'éventail pour les armes dites orientales, il est beaucoup plus fort. Il dépasse même le sens électoral, donc les sortes de limites, en fait, pour être habilité à voter. Le sens électoral, il était à 200 francs, mais vous regardez, du coup, pour les armes persanes, la moitié presque, enfin, des armes persanes se vendent au-dessus de ce sens électoral. Donc ça m'a vraiment surprise. Je me dis, mais comment ça se fait, en fait, que des armes orientales se vendent aussi cher? Parce qu'aujourd'hui, si on fait les prix relatifs aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire après pour le début du XXe siècle, l'échelle de prix relatif, enfin, l'échelle de valeur a totalement changé. C'est inimaginable pour nous aujourd'hui qu'une arme se vende si cher. Et quel est le type d'arme qui se vendait aussi cher? Ce sont les armes dites damasquinées. Alors, bon, j'y connais rien. Je veux dire, en arme damasquinée, il faut imaginer que le principe, cette technique très très fine, c'est de couler du bronze ou de couler de l'or dans des plaques, en fait. De métal, en fait, de couler, un peu comme les émaux cloisonnés. C'est un peu la même technique, sauf que c'est avec du bronze ou avec de l'or. Donc, cette technique d'armes damasquinées, ici, elle a beaucoup alimenté l'imaginaire. Donc, en fait, acheter une arme comme ça précieuse, il y avait cette. Bon, au-delà du matériau, il y avait un imaginaire, disons, qui facilitait cette valeur et cette. C'est un imaginaire très militaire qui, disons, a inondé le marché. Imaginaire qui avait été aussi alimenté par la conquête de l'Algérie. Enfin, la conquête, c'était leur propre terme, hein, de l'Algérie. En l'occurrence, je vous ai mis cette œuvre de Eugène Fromentin, donc une Fantasia Algérie, 1869, qui est au musée d'Orsay. Mais on peut aussi, disons, continuer, poursuivre dans cet imaginaire avec le combat avec Abdelkader. Et un des objets, peut-être que vous avez vu si vous avez été au musée Condé à Chantilly, c'est le sabre d'Abdelkader. Et donc, c'est un des clous, en fait, de la collection du duc d'Aumale, c'est le sabre d'Abdelkader lors de la prise en 1847. Donc ce sabre-là, vous voyez, j'ai pas trouvé de photographie de meilleure qualité, pardon, mais c'est un sabre qui est très très ouvragé, en fait. Et donc cet imaginaire-là du trophée, on est dans une esthétique du trophée, trophée de guerre. Un trophée, c'est pas la lame classique, mais c'est une lame très précieuse. Donc la combinaison entre le trophée militaire et la préciosité des matériaux, ben, ça va donner de la valeur. Et c'est un Orient ici, un Orient fantasmé, un Orient très militaire et fantasmé. Donc ce qui va également, ben, cet imaginaire hein, orientaliste militaire va totalement traverser le 19e siècle. On le retrouve en basse continue, si vous voulez, dans les tableaux les plus valorisés. Donc là, je me suis amusée à regarder en 1875 quels étaient les tableaux qui se vendaient le plus cher, en fait, quels étaient les types d'œuvres qui se vendaient le plus cher. Donc on est en 1875, donc il faut imaginer aussi comment quel était l'imaginaire des acheteurs aujourd'hui. Et on a perdu ça, en fait, on a perdu ce goût, ses préférences de l'époque. Donc qu'est-ce qui se vendait très cher en 1875? Donc d'abord les tableaux de l'école de Barbizon, donc des tableaux autour de paysages, hein, de forêts, donc la forêt de Fontainebleau, des paysages aussi, avec de la peinture animalière, donc notamment les moutons de Charles Jacques. Là, j'ai retrouvé les œuvres qui avaient été vendues le plus cher, d'où le côté noir et blanc. Mais il faut imaginer que ces tableaux étaient très très verts, donc dans des intérieurs aussi, souvent la teinture pouvait être rouge, donc ça faisait contraste, vert sur rouge, ça claque. Donc à l'époque, ceux qui se moquaient disaient que c'était des plats d'épinards, en fait, qui étaient mis sur le mur, et certains artistes mettaient du coup du beurre dans leurs épinards, et donc c'était la blague de l'époque. Donc des tableaux très verts avec des vaches ou des moutons, plus les vues de Venise de Félix Ziem, qui était l'artiste le plus cher, l'artiste vivant le plus coté. Et je vous renvoie à l'exposition du Petit Palais qui a eu lieu au début des années 2010. Donc ce qui se vendait aussi très très cher, c'était les tableaux de peinture d'histoire. Donc la peinture d'histoire, c'était le grand genre pictural depuis le XVIIe siècle. Mais la peinture d'histoire, on n'allait pas non plus manger devant une scène de bataille avec des égorgements ou des choses comme ça. Donc on préférait des tableaux, beaucoup d'une peinture d'histoire plus anecdotique. Et donc c'est cette peinture dite troubadour qui se vendait également très cher, notamment les œuvres de Ferdinand Rabelais. Donc Ferdinand Rabelais, c'est l'exact contemporain de Monet. Et au même moment, en fait, en 1875, il dépassait de très très loin les œuvres de Monet, en fait, en termes de cote. Donc vous voyez ici le page de Ferdinand Rabelais. Ensuite, l'art académique, donc très léché, avec de la peinture souvent de nus, notamment les nus de Jules Lefebvre. Donc, où là, les artistes ont bien appris la leçon de l'école des beaux-arts en soignant l'anatomie et le dessin. Et surtout, surtout, surtout, et c'est là mon point, ce sont les scènes orientalistes qui remportaient la faveur des acheteurs et des collectionneurs. Il fallait avoir une scène orientaliste dans son intérieur. Et on a en fait ici une forme de fascination qui est voilà, à la fois pour la conquête militaire. Donc on en a vu tout à l'heure des fromentins ou avec des paysages très voilà, évocateurs, toujours baignés dans une sorte de lumière très, très chaude. Et également des scènes un peu plus chaudes, également des scènes de nu, des scènes de harem. Et donc on retrouve ici la touche de la croix. Mais malgré tout, c'est toujours le spectateur occidental se place dans une situation de domination, à la fois par rapport aux femmes totalement alanguies, offertes à son regard. Et là, par exemple, vous avez l'odalisque à l'esclave de Ingres, qui a été un des records de 1875. Et vous voyez ici la pose de cet odalisque qui offre son buste et aussi sa nudité, son corps, à ce male gaze, ce regard masculin au spectateur. Donc on conquiert l'Orient aussi par les corps des femmes, par le nu. Et toujours, comme pour Delacroix, cet imaginaire orientale qui fait appel à tous les sens. Donc on a toujours une sorte de bruit de fond, en fait, de sitar qu'on peut entendre. Et aussi, c'est ce jeu sur les textures, sur les tentures, sur les couleurs. Et regardez aussi le rideau rouge qui retombe sur la balustrade. Donc on est dans vraiment. C'est une sorte de tenture assez sensuelle, on va dire, voilà, pour dire les choses avec beaucoup d'euphémisme. Donc voilà quel était l'imaginaire orientaliste de ce début, enfin première moitié, jusqu'aux années 1880, 70-80. C'était un Orient à l'hôtel Drouot, à la fois militaire et très sensuel. Ce qui va se passer, ça va être une diversification du marché à partir, voilà, de ces années-là, de la fin Second Empire, début de la Troisième République. Et c'est là où la géopolitique va rejoindre le marché. Là, je vous ai mis une carte que j'avais peut-être déjà montrée le mois dernier, une carte de l'expansion du marché à l'hôtel Drouot par les armes. Et là, il y a une forme de déconnexion aussi. Enfin, à la fois de connexion de ce qui se passe avec Napoléon III et peut-être de déconnexion sur le marché. Pourquoi connexion? Parce que vous voyez que les objets du palais d'été, du pillage du palais d'été par les troupes françaises et britanniques, ces objets-là vont arriver en masse à l'hôtel Drouot. Ça, on l'avait vu le mois dernier, vous vous souvenez, c'était cet afflux notamment d'émoclaisonnés de porcelaine qui avait, disons, rempli les salles de vente. Mais ce qui se passe, vous voyez la conquête ici voilà, j'emploie le terme du 19e. La colonisation de l'Algérie ici ne se solde pas nécessairement par un afflux d'objets en provenance d'Algérie vers l'hôtel Drouot. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'armes, encore une fois, turques, d'armes, enfin d'objets qui viennent de Perse et d'armes dites arabes, vous voyez, qui vont affluer à l'hôtel Drouot. Donc il y a une forme de déconnexion entre la prise, les objets pris, disons, par la conquête coloniale et ceux qui vont vraiment réellement arriver sur le marché, contrairement à l'Asie, vous voyez. Donc à la fois, il y a des liens, bien sûr, entre la géopolitique, la politique extérieure de Napoléon III et le marché, mais pas totalement, il y a quand même des formes d'indépendance. C'est ce qui se passe pour les objets orientaux. La principale remarque qu'on pourrait faire, en fait, c'est la diversification des types d'objets, en fait, qui arrivent sur le marché. Donc là, ce graphique-là représente en pourcentage d'objets orientaux vendus, des objets dits orientaux. C'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. Encore une fois, il faut attendre l'entre-deux-guerres pour qu'on parle d'art de l'islam ou d'objets musulmans. À l'époque, on parle vraiment d'objets dits orientaux. Dans ces catégories-là, vous voyez que en pourcentage, disons autour, là, il y a un petit tour d'accident dans mon dépouillement. Je ne peux pas faire toutes les années, enfin, je suis un peu seule. Enfin, je ne pouvais pas faire toutes les années. Donc du coup, j'ai fait des sondages. Peut-être, enfin, je pourrais vous expliquer en off comment j'ai fait, mais pourquoi j'ai choisi ces années-là, mais bon. Ce serait un peu dépasser le cadre et même l'intérêt de cette conférence. Mais vous voyez, en 1852, 54, 58, 61 et après 73, principalement à plus de 70% pour la plupart, même 70, même jusqu'à 100%, ce sont des armes qui sont vendues sur ce segment-là dit oriental. Ce qui se passe là dans mon dépouillement, en 83, 88, 93, etc. Et même après, ce sont principalement en fait des étoffes, des faïences, et après en 1888, des cuivres, des objets en cuivre qui vont déferler sur le marché. Donc il y a une forme de diversification. C'est la fin en fait du règne des armes, si je puis dire, à l'hôtel Drouot, mais il y a une forme de diversification dans les objets qui apparaissent. Et ça, c'est assez intéressant. On peut se demander pourquoi l'hôtel Drouot se transforme en profusion d'objets un peu exotiques, et c'était comme ça en fait qu'on prenait ces objets à l'époque, et on parlait d'exotisme. Et pourquoi ce goût aussi pour les faïences? Pourquoi les faïences arrivent comme ça sur le marché, puisqu'on peut dire aussi que l'offre aussi arrive, les objets arrivent sur le marché, mais peut-être aussi que la demande stimule également l'offre. l'afflux, l'importation de ces objets. En fait, cette fascination pour les faïences, elle date hein, surtout des années 1860. Me semble-t-il, mais après, encore je ne suis pas vraiment spécialiste du segment, là je vous renvoie à l'exposition aussi magnifique qui a eu lieu aux arts décoratifs qui s'appelait Pur Décor, sous la direction de Rémi Labruste. Donc, il y a un catalogue vraiment qui fait référence sur ce sujet. Je me contenterai juste très humblement de porter à votre attention ce vase dit Alhambra de Théodore Deck. Théodore Deck étant une sorte de céramiste industriel qui a réalisé ce vase. Et vous voyez la hauteur exceptionnelle de ce vase, donc 107 cm, donc plus d'un mètre, là qui se trouve au Victoria and Albert Museum à Londres. Et donc ce vase, vase Alhambra, il copie un vase qui était à l'époque assez connu parce qu'il avait été l'objet, enfin il avait, chaque fois que enfin, des hommes de lettres ou femmes de lettres partaient en Orient, il ou elle, plutôt il, se rendait là où c'était le plus près, l'Orient le plus proche, en fait, c'était l'Orient en Andalousie, notamment à l'Alhambra de Grenade. Il suffisait d'aller à l'Alhambra de Grenade pour être totalement dépaysé, et notamment Théophile Gautier s'est rendu à l'Alhambra de Grenade et a fait des récits totalement où enfin, on retrouve cet Orient-là. Et El Jarón de las Gacelas, qui est au musée de l'Alhambra à Grenade, donc qui était visible à l'époque au palais de l'Alhambra, a totalement alimenté les imaginaires. Pourquoi? Bon, notamment pour sa technique de la céramique lustrée avec ses couleurs, c'est une céramique très foisonnante, et vous voyez les gazelles en fait, qui sont sur la panse ici du vase, hein, aussi des couleurs, ce bleu, cet ocre qui sont totalement, enfin, il faut le voir, enfin, qui sautent aux yeux. Et également la forme très très étrange avec ces sortes d'ailes. Et surtout, je veux dire, la hauteur du vase, 1,35 m, dire s'il fallait le, enfin, c'était quand même un sacré bébé, si je puis dire, ce vase. Donc, ce vase a totalement bercé. C'était un peu le clou du spectacle à l'Alhambra, et il a, ils ont suscité une créativité de céramique. De l'autre côté, en fait, en Occident, notamment en France, le premier, me semble-t-il, à avoir fait ça, c'est un certain Feuchère qui crée ce vase arabe. Mais vous voyez, bon, il reconstitue l'aile qui était cassée. Et ce qu'il fait, bon, il essaie de faire son propre vase, mais la hauteur, elle n'est pas top, quoi. 48,8 cm de haut, c'est encore moins de la moitié. Et c'est Théodore Deck qui, lui, réalise son chef-d'œuvre, ce vase Alhambra. Donc il réalise en fait un peu l'exploit de faire un peu pareil et aussi grand. Et il réalise différentes versions de ce vase Alhambra. Donc vous voyez la fascination pour les céramiques. Et il va exposer ce vase Alhambra, ces différents aux expositions universelles, en même temps qu'il développe un autre type de. Voilà, il copie l'Orient, il réalise en fait d'autres céramiques qui s'inspirent de. Si vous voyez. Si vous êtes familière de la céramique d'İznik qui se trouve dans l'actuelle Turquie, notamment ces céramiques très florales, vous voyez, avec ces bleus très, comment dire, très profonds, en fait, très flashy, on pourrait dire aujourd'hui. Donc là, ce sont les exemplaires en fait qu'a réalisé Théodore Deck, ce ne sont pas les originaux. Mais vous voyez, Théodore Deck s'est fait connaître pour un type de couleur qu'on appelle le bleu de Deck, un bleu que vous avez là en haut à gauche, une sorte de bleu très turquoise, et c'est sa marque de fabrique, on peut dire le bleu de Deck. Donc vous voyez que c'est par la céramique que l'Orient va, à cette époque-là, disons, transformer l'imaginaire. On n'est plus dans un Orient par les armes, mais on est dans un Orient qui stimule l'imagination par la céramique, et notamment par l'idée que se font les Occidentaux de l'Orient, et en l'occurrence Théodore Deck. Là, je vous ai montré en fait quelques photos de l'exposition universelle de 1862 où Théodore Deck expose ses productions. Il va également exposer en 1867 à l'exposition universelle à Paris. Et pour la petite histoire, l'Orient, enfin, l'Empire ottoman était présent à l'exposition de 1867. En fait, c'était présent non pas en tant que pays invité, puisque en fait, c'est un certain un Français, Léon Parvillers, qui a fait le pavillon oriental en fait de l'exposition universelle de 67. Donc c'est pas quelqu'un d'autochtone qui a fait le pavillon, mais c'est encore un occidental qui a fait qui a imaginé son Orient. Et Abdul Aziz, qui était le disons le l'empereur enfin de l'Empire ottoman, c'est la première fois qu'il est venu officiellement dans un pays qui était à l'époque entre guillemets hérétique dans un pays occidental. C'est la première fois qu'il est venu à cette exposition-là en 1867. Donc il y a eu un tournant en 1867 où les Occidentaux ont rêvé leur Orient, mais l'Orient, l'Empire ottoman est venu sur place, donc à Paris. Donc c'est un moment en fait assez fort dans les relations diplomatiques. Relations diplomatiques qui étaient traversées entre l'Orient et l'Occident par les enjeux de rivalité internationale, des rivalités de fouilles, et notamment les rivalités entre la France et la Grande-Bretagne, entre aussi le Louvre et le British Museum, et donc notamment ces enjeux de fouilles de Layard à Ninive. Et vous voyez ici ces sortes de lions qu'on retrouve à la fois au Louvre et au British Museum, donc il fallait avoir ces objets de fouilles orientales. Et il y a un autre Orient qui apparaît à ce moment-là. Pardon, j'ouvre une parenthèse. Vous voyez, l'Allemagne n'était pas en reste puisque le Grand Hôtel de Pergame, donc qui est en actuelle Turquie, est allemand, transporté à Berlin en 1886. Vous voyez, donc l'Allemagne n'est pas en reste. Pourquoi en fait cet Orient fascine-t-il autant, notamment au niveau des antiquités? Parce que le but, c'était de retrouver, d'aller au cœur de la Bible, en fait, de retrouver des sources bibliques et d'aller fouiller les sources de l'Ancien Testament, notamment, de retrouver ben, Ninive, de retrouver Jéricho, de retrouver, en fait, d'aller au plus près, en fait, de ces sources bibliques. Et là, je vous ai mis un tableau qui m'est assez cher et que j'avais étudié avec les étudiantes et étudiants de PSL qu'on retrouve dans les fragments d'une histoire globale de l'art. Et on avait étudié ce tableau de William Holman Hunt, donc la découverte du Sauveur dans le temple. Donc c'est un tableau de 1854 qui est conservé à la Birmingham Museum and Art Gallery. Et c'est un tableau qui figure la découverte de Jésus au temple. Enfin, c'est la première fois, c'est la première apparition publique du Christ. Et en fait, vous connaissez l'anecdote, enfin, ou l'histoire. En fait, chaque année, en fait, les parents faisaient le pèlerinage à Jérusalem. Et puis après, au moment du retour, en fait, Joseph et Marie ne trouvent pas Jésus, mais où il était, panique à bord. Et en fait, ils reviennent sur leurs pas et trouvent le Christ au temple. Et puis c'est le moment où ils disent, mais il fallait que je sois avec mon père. Et donc, panique de Joseph. Enfin, on peut imaginer que son père, c'était. Ouais. Je ne vais pas vous refaire l'histoire biblique, mais ici, le tableau de William Holman Hunt, c'est assez. Il est assez révélateur de cette volonté justement occidentale de revenir, de figurer en fait une scène, non pas en fait un Christ à la italien ou occidental, mais d'aller vraiment au plus près en fait des groupes, d'aller sur place en fait pour regarder les costumes, pour regarder également les tapis, pour regarder aussi tout l'environnement. Donc William Holman Hunt est allé sur place, il a été si je puis dire, sur le motif, mais en recréant aussi son propre Orient, puisqu'il y a certains éléments en fait, de ce temple qui sont inspirés de l'Alhambra. En fait. Donc il va mêler en fait différents motifs, la grand-mère de l'ornement, il va mêler tous ces éléments-là pour recréer ce qu'il croit être le plus proche de l'épisode original en fait tel qu'il aurait pu se produire, vous voulez, à l'époque du Christ. Donc l'Orient, c'est aussi le berceau du christianisme. C'est aussi important pour ça de revenir à ces sources-là, d'aller au plus près, d'étudier justement les tissus, l'architecture, etc. de cet Orient-là. Donc, si je résume, au milieu deuxième moitié en fait, du 19e siècle, l'orientalisme cesse d'être uniquement militaire ou sensuel, mais c'est un Orient qui passe par la faïence, qui passe par l'architecture pour retrouver justement à la fois un certain exotisme, mais aussi une volonté de revenir aux sources bibliques. Et parmi les peintres qui se font faire le voyage justement en Orient, vous connaissez très sûrement Jean-Léon Gérôme. C'était un peu le champion de l'orientalisme en France. Jean-Léon Gérôme a passé un séjour de 5 mois en Orient. Il est allé à Alexandrie, Beyrouth. Il est allé également à Jérusalem. Il a fait le tour de la mer Morte. Il est allé également à Damas. Et donc Jean-Léon Gérôme était accompagné dans monsieur en fait qui s'appelle Albert Goupil qu'on va re retrouver très très vite dans ce déroulement de l'exposé. Et avec tous les deux ils sont partis bras dessus bras dessous pendant 5 mois. Et donc Goupil prenait des photographies et là vous voyez donc dans ces femmes fellahs puisant de l'eau, c'est un tableau, une scène orientale qui a été bon, il y a tout ce qui fait un peu couleur locale, et également à la fois des personnages, mais aussi un décor. Et vous voyez ici que cette photo, enfin, croyez-moi sur parole, ces femmes fellahs puisant de l'eau ont été reproduites en atelier d'après photos de Goupil. Et après reproduites par la gravure, puisque Goupil est un éditeur d'estampes. Donc ces vues-là de personnes, de peintres qui sont allés sur place, vont alimenter aussi l'imaginaire. Mais également qui vont alimenter cet imaginaire oriental en retour. Je m'explique. Jean-Léon Gérôme a formé en retour Osman Hamdi Bey, que vous voyez ici à gauche. Donc Osman Hamdi Bey était le fils de celui qui allait devenir grand vizir de l'Empire ottoman en 1877. Donc c'est disons, quelqu'un de haut placé dans la société ottomane. Et figurez-vous qu'Osman Hamdi Bey a été l'élève de Jérôme parce que son père l'a envoyé faire des études, notamment de droit, à Paris. Et Osman Hamdi Bey a été à la fois important, disons, pour sauvegarder le patrimoine de l'Empire ottoman, mais également pour le moderniser. En fait, Osman Hamdi Bey était un petit peu paradoxal. Donc c'est notamment lui qui a assuré le commissariat du pavillon de l'Empire ottoman à l'exposition universelle de Vienne en 1873. Donc c'est lui qui a fait venir disons, ces objets de l'Empire ottoman à Vienne. Donc ça a été un peu un passeur des arts, en fait, quelqu'un qui a révélé aussi au moment de ces grandes cathédrales internationale, les expositions universelles étaient très importantes en fait pour aussi faire découvrir les cultures des uns et des autres et aussi dans une forme de rivalité. Donc Hamdi Bey a valorisé le patrimoine ottoman en 1873. Il a également été le directeur du musée impérial ottoman. Il a également été, dans cette forme d'affirmation nationale, nationaliste et d'affirmation patrimoniale, c'est lui qui a été le directeur, enfin, qui a, non, pardon, c'est lui qui a durci le règlement sur les antiquités. Il a notamment, en 1884, empêché disons, la saignée des antiquités orientales vers l'Occident. Donc il a protégé son patrimoine, il a valorisé et protégé le patrimoine de l'Empire ottoman. Mais dans un même temps, c'est lui, grâce par Jean-Léon Gérôme, qui a modernisé, enfin, occidentalisé plutôt, moderniser, c'était dans ses mots, la formation locale, puisque c'est lui qui a fondé en 1883 l'Académie des Beaux-Arts dans l'Empire ottoman à Constantinople. Et c'était une académie des beaux-arts qui était orientée, qui était toute imprégnée de l'enseignement de Jérôme, donc un enseignement occidental. Donc il était à la fois, si vous voulez, un peu juge et partie, à la fois fasciné par l'Occident et protecteur des antiquités ottomanes. Et en fait, cette fascination On la voit ici dans cette œuvre que vous retrouverez également dans l'ouvrage des fragments. Donc c'est Marchand de tapis dans la rue, donc une œuvre de 1888 qui est conservée à la National Gallery de Berlin. Donc c'est une œuvre que moi, que j'aime beaucoup puisque vous voyez une famille d'occidentaux qui est une sorte de touriste hein, comme vous et moi qui se rendent dans une sorte de souk donc à Constantinople, on retrouve un peu l'architecture derrière une sorte de fontaine de Constantinople. Et vous voyez des marchands de tapis persans qui font un peu, un peu comme dans Affaire conclue, pardon, qui. Pardon, il ne faut pas que je regarde Rachel. Voilà, qui font le grand déballage de la démonstration devant cette famille d'occidentaux. Et vous voyez également tous les objets qui auraient pu être à l'hôtel Drouot et que, par une forme de volonté un peu paradoxale, à la fois Andibé détend, si je puis dire, ce grand déballage fait aux occidentaux, mais il le détend tout autant qu'il le valorise, puisqu'il y a une grande attention qui est faite sur justement ces produits de l'artisanat local. Donc, on arrive à ce stade-là où à la fois l'Orient, si je puis dire, se complexifie. Disons, on a un afflux d'objets beaucoup plus diversifiés à l'hôtel Drouot, une attention beaucoup plus forte qui est, disons, donnée à ces objets. Mais pour autant, est-ce que à Paris, on les connaît vraiment? La réponse est pas vraiment. Les descriptions sont très brèves, un peu comme pour les objets asiatiques. Et vous vous souvenez, le mois dernier, on avait montré à quel point ces objets étaient indistincts. On parlait d'objets de la Chine et du Japon, mais dans les descriptions, rien n'était vraiment très, très. Très, très clair, les descriptions étaient très succinctes, les objets n'étaient surtout pas datés. Donc, certes, on a du choix, mais pour l'instant, on est encore dans de l'évocation. La troisième partie, en fait, s'ouvre autour des années, enfin, au tournant du XXe siècle, et se caractérise par un connoisseurship qu'on peut qualifier d'un connoisseurship de niche, puisque, en fait, il ne concerne que pas beaucoup de personnes. Donc ce connoisseurship, disons, est précédé d'une exposition dont j'avais parlé le mois dernier. Vous vous souvenez peut-être du musée oriental qui a eu lieu en 1869. C'était une exposition organisée par l'Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie, futur musée des arts décoratifs. Pour dire les choses de manière très rapide. Donc, cette Union centrale des beaux-arts appliqués à l'industrie regroupe des collectionneurs industriels et marchands dont le but est de soutenir les arts industriels français et de les soutenir en leur montrant des modèles étrangers. Donc, on stimule la demande, enfin, les arts décoratifs en interne par une ouverture sur le monde. Et cette ouverture sur le monde, elle passe par l'organisation d'expositions et en l'occurrence, ce musée oriental. Donc il faut imaginer des milliers d'objets, je crois que c'est un bon millier, au palais de l'industrie. Donc c'était le palais de l'industrie était sur les lieux en fait, de l'actuel Petit Palais, donc un grand lieu d'exposition. Et parmi les prêteurs de ce musée oriental, on retrouve donc des acteurs qui ont été également actifs à l'hôtel des ventes, qui ont acheté à l'hôtel des ventes, donc à l'hôtel Drouot principalement. Donc là, c'est un réseau des principaux acteurs dans les ventes aux enchères parisiennes d'objets exotiques et d'antiquités. Donc j'ai fait grosso modo trois segments. Le segment des objets asiatiques, donc je l'appelais Extrême-Orient. Après, j'ai également mis le secteur des antiquités et le secteur des objets dits orientaux. Pour des raisons en fait, de typographie, j'ai juste appelé Orient. Ouais. Donc, j'aurais également pu ajouter le segment des tableaux, sculptures, mais là, ça aurait été totalement illisible. Donc, j'ai préféré vraiment me focaliser sur ces trois segments. Ce qui m'intéresse là, c'est l'identité des principaux acheteurs. Donc là, le cercle est proportionnel aux dépenses totales en francs, donc entre 542 francs et pour le plus gros, 46 000, 400 francs. Donc en jaune, les marchands, en vert, les particuliers, et surtout, vous aurez remarqué la petite étoile des acteurs qui sont prêteurs au musée oriental. Donc si je zoome, parce que sinon on n'y voit rien, on retrouve en fait disons, les principaux acteurs de ce segment-là. Première remarque, il n'y a pas beaucoup d'acteurs en fait qui se sont vraiment intéressés aux objets orientaux. Regardez en fait par comparaison avec les acteurs qui s'intéressent uniquement aux objets dits asiatiques. Ceux qui s'intéressent aux objets orientaux uniquement, il n'y en a pas beaucoup. Principalement le duc de Martina, mais c'est pas vraiment, disons, des noms qu'on retient aujourd'hui. Ceux qui m'intéressent là, ce sont ceux qui sont à la croisée en fait du segment des objets orientaux et de l'Extrême-Orient, même des antiquités. Une figure qui enfin, qu'on voit en fait qui se distingue, c'est Mannheim, Charles Mannheim. C'est un nom, enfin, qui n'est plus vraiment connu aujourd'hui. Celles et ceux qui travaillent sur le marché de l'art connaissent Mannheim, parce que c'était un expert incontournable en objets d'art au XIXe siècle. Il achetait beaucoup également, et surtout, il se distingue par son éclectisme assez fou, parce qu'il achète à la fois des objets d'Extrême-Orient, des antiquités et des objets orientaux. Donc il se distingue vraiment des autres par son éclectisme. De même, Nicolas Malinet, lui, n'était pas expert à Douvres, mais c'était un marchand de curiosités qui était sur les. Je crois qu'il était Quai Voltaire. Enfin, et Malinet, lui, se distingue par le fait qu'il n'achète pas d'antiquités, contrairement à Mannheim, qui, lui, est vraiment éclectique. Une autre figure, c'est Daniel Ifla, dit Osiris, qui est un particulier qui achète également des objets comme Mannheim très diversifiés. Mais sinon, vous voyez que principalement, ce sont des marchands dits de curiosités qui vont, disons, faire grossir le stock des objets vendus en se diversifiant vers l'Orient. Donc là, voilà les connoisseurs en fait de 1169. Vous voyez, ce sont plutôt des marchands. Et les choses vont changer un petit peu, même beaucoup, avec un acteur qui a vraiment modifié la façon dont on regardait le segment des objets dits orientaux, c'est Albert Goupil. Donc vous vous souvenez, Albert Goupil, c'est le meilleur ami de Jérôme, et c'est avec lui que Jérôme part en 68, pendant ses 5 mois, dans le Proche-Orient, Proche et Moyen-Orient. Donc pour la petite histoire, Albert Goupil, c'était le beau-frère, Jérôme était le beau-frère d'Albert Goupil. Albert Goupil était le fils d'Adolphe Goupil, donc c'était un éditeur d'estampes et marchand de tableaux. Ils avaient un immeuble en fait au 9 rue Chaptal, et en fait Goupil Papounet en fait vendait louait les appartements au-dessus de la boutique à des artistes, notamment à Jérôme. Et Jérôme a épousé la fille d'Adolphe Goupil, c'est comme ça qu'il est devenu le beau-frère d'Albert Goupil. Donc Albert Goupil dans ses appartements avait constitué ce qu'il appelait un salon oriental. Il avait deux grands salons. Le salon occidental, c'était un salon avec des objets de la Renaissance italienne. Et le salon oriental, c'était un salon avec des objets, disons, qu'il avait pris de ses voyages, et aussi des objets qu'il valorisait beaucoup dans l'Union centrale des arts décoratifs, l'UCAD, vous vous souvenez, donc l'ancêtre du musée des arts décoratifs. Et donc Albert Goupil, notamment, avait justement remplacé Jérôme à la tête de la société du musée des arts décoratifs. Donc il était à la fois jugé parti, il était un fervent défenseur, Goupil, avec Jérôme, de ces objets orientaux, donc dans le but de les faire connaître au grand public et aussi aux industriels de l'époque. Une vente majeure, c'est la vente, du coup, après décès d'Albert Goupil en 1888. Et vous voyez ici, là j'ai mis un extrait du catalogue de vente, ce qui change. On l'avait vu par rapport à le mois dernier. Jusqu'alors, il y avait des descriptions très très succinctes des œuvres, des objets. À ce moment-là, avec Albert Goupil, l'Orient se représente et digne d'entrée, d'être reproduit au catalogue de vente. Et là, c'est vrai, vous voyez, dans des planches d'objets qui sont reproduits en pleine page, donc sur des planches à part, notamment des tapis salting, également des objets en cuivre, mais regardez aussi ce qui change, c'est la vue de l'intérieur, vraiment. On a ces objets dans leur contexte et on voit aussi leur utilité telle qu'elle a été reproduite, pensée, imaginée par Albert Goupil, et vous noterez aussi une sorte de mouche à rabiais qu'il avait reproduit dans son intérieur. Donc c'est grâce à Albert Goupil, ces objets dits orientaux sont un peu dignes d'entrer dans les catalogues de vente, un peu comme des objets d'art à part entière, et c'est comme ça qu'ils le deviennent. Il y a une forme d'artification de ces objets-là. Et on le voit, en fait, cette artification est suivie en fait, de résultats très forts. Donc là, je refais la même chose avec mon réseau. Vous voyez, encore, il y a encore plus de monde. Donc imaginez si j'avais mis d'autres segments, ça aurait été illisible. Ce qui est intéressant là, avec ce réseau, c'est que on retrouve ici des acteurs qui sont éclectiques, qui vont acheter à la fois des antiquités, des objets ici asiatiques. En l'occurrence, j'ai juste gardé les arts graphiques. Enfin, j'ai distingué arts graphiques, c'est-à-dire les estampes japonaises et les autres objets asiatiques. Mais ce qui m'intéresse là, et je vois que le temps tourne, c'est les acteurs qui se sont intéressés à l'Orient. Et ce qu'on peut constater, c'est l'arrivée de points bleus. Et en l'occurrence, ce sont des institutions, notamment le musée industriel de Berlin, qui avait été représenté par Lessing, achète au moment de la vente Goupil, le musée des arts décoratifs également, et la chambre de commerce de Lyon également. Donc c'est l'entrée, en fait, la vente Goupil signe un changement dans la considération de l'Orient au sens large, c'est-à-dire c'est l'entrée de l'Orient au musée. Donc les musées vont acheter. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Notamment Charles Mannheim, encore lui, va acheter pour le musée des arts décoratifs, vous voyez, une teinture d'Inde du Nord. Donc pour 8 300 francs hors frais, il faut multiplier par 4 pardon, pour avoir les prix en euros actuels. Également les tapis à médaillon d'Isalting, c'était un tapis qui était reproduit en pleine page sur une planche à part. Donc vous voyez qu'il a été adjugé à un peu plus de 80 000 euros actuels à Charles Mannheim pour les arts décoratifs, pareil à la même vente Goupil, mais également des objets qui sont assez, enfin qui sont font partie non, du musée des arts décoratifs. Disons, vous voyez une lampe, une bouteille, une aiguière, un coffret, un chandelier. La plupart en fait datent enfin Irak, Syrie, Égypte, autour du XIIIe siècle, qui rentrent au musée des arts décoratifs de cette façon. Donc vous voyez, il y a une sorte de tournant qui a eu lieu voilà, à partir de cette vente Goupil. Cependant, ce tournant-là est encore maigre. C'est un tournant, c'est comme si un coup d'épée dans l'eau peut-être à la vente Goupil. Cette vente Goupil a été exceptionnelle, mais en fait, en dehors de cette vente-là, vous voyez que le nombre d'objets dits orientaux, il reste assez bas à l'hôtel Drouot, autour de voilà, 130, 100, 130 objets. Donc par rapport aux objets dits asiatiques, qui eux dépassent les 2 500 objets par an environ, vous voyez que la présence de l'Orient n'est pas aussi forte que la présence de l'Asie. Il faut attendre vraiment le début du XXe siècle, où là, il se passe quelque chose à partir des années 1912-1913, et là, le nombre d'objets dits orientaux explose, et surtout, ce segment-là se divise d'une part en objets dits orientaux, et d'autre part dans les antiquités orientales, et le terme antiquité orientale va rentrer dans les catalogues de vente. Vous vous souvenez, on assiste à peu près à la même chose dans le segment des objets asiatiques. Vous vous souvenez qu'au tournant du XXe siècle, on parlait d'objets de la Chine archaïque, et c'était le début de la datation des objets en provenance d'Asie. Donc au début du XXe siècle, en fait, il y a un tournant vraiment dans la considération des objets extra-européens, une volonté vraiment de datation des objets, une attention à l'ancien. Et c'est cette attention-là qui est commune à la fois à l'Asie et au Moyen-Proche-Orient. Donc si on développe, en fait, on essaie de comprendre pourquoi il y a eu cette attention vers le. Voilà. Il y a eu une attention. Je passe à cette attention-là. Alors, pardon, il y a une rupture dans le fil de mon raisonnement. Vous voyez que malgré tout, ces objets dits orientaux ne pesaient pas beaucoup en termes de prix. En fait, on a un renversement aussi par rapport aux années 1830, un renversement des valeurs en termes de prix. Les faïences persanes et les armes orientales sont dans le bas de l'échelle des prix relatifs. En fait, vraiment, ces objets-là, même s'ils s'affirment du point de vue du volume d'objets en valeur, ils ne représentent pas grand-chose. Je passe. Et il n'y a pas beaucoup également d'acheteurs en fait pour ce segment-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi y a-t-il un tournant autour des années 1900, 1910? À quoi le doit-on? En fait, il y a trois acteurs trois passeurs des arts qui ont modifié également les connaissances qu'on avait sur ces objets et qui ont valorisé certains sous-segments. Les deux premiers sont Henri Weber et Georges Marteau. Donc ces noms vous sont peut-être familiers. Henri Weber et Georges Marteau ont été des passeurs pour ces objets orientaux. Henri Weber, voilà, donc en plus ils étaient amis. Donc Henri Weber était le joaillier art nouveau. En fait, c'était un voisin de Bing. Vous vous souvenez, Siegfried Bing, qui avait été un passeur, un marchand d'objets asiatique et un passeur. On a également le catalogue Bing dans la vitrine. Donc Henri Weber était un collectionneur ami de Siegfried Bing et il a beaucoup collectionné notamment les estampes japonaises. C'est lui également qui a constitué le fonds de la collection Matsukata, le fonds d'estampes Matsukata, qui est une autre figure, voilà, un autre collectionneur japonais. Ça, c'était encore une autre histoire. Donc Henri Weber donc était joaillier, Georges Marteau était ingénieur, et c'est lui, Georges Marteau, qui avait une place de choix dans les. C'était le directeur en fait des cartes à jouer Grimaud. C'était en fait les cartes à jouer Grimaud, c'était les leaders dans tout le 19e siècle jusqu'aux années 1960 des cartes à jouer. Et en fait, Georges Marteau avait une grande place dans cette entreprise-là. Donc Georges Marteau et Henri Weber sont venus, et ça c'est intéressant. Et en fait, ils sont venus à l'Orient, aux objets orientaux, par le Japon. D'abord, ils ont été collectionneurs d'objets asiatiques et surtout d'estampes japonaises. Ce ont été parmi les premiers à vraiment collectionner les estampes japonaises. Et c'est par les estampes japonaises qu'ils sont venus ensuite à certains objets, et notamment aux miniatures persanes. C'est par le Japon qu'ils en viennent, si vous voulez, à ces types d'objets orientaux, notamment les miniatures. Donc en fait, miniatures, c'est pas des choses des petits, en fait c'est des peintures, disons, enfin, au minium. Donc c'est pardon, vous voyez, c'est des sortes de planches dans des albums, dans des livres qui sont particulièrement colorés. Et notamment on a des miniatures de l'Inde, de l'Empire moghol, des albums commandés par le Shah Jahan, qui ont été également très appréciés à l'époque, notamment par Rembrandt. Rembrandt adorait ces miniatures moghols. Et je vous renvoie pour ça au catalogue, hein, au musée du musée du Louvre, l'exposition. Le goût de l'Orient, Georges Marteau collectionneur, qui a eu lieu en 2020, il me semble, au musée du Louvre. Et là, c'est une exposition très importante qui a retracé le goût et le rôle de Georges Marteau. Donc avec Henri Weber, tous les deux, ils ont réalisé, ils ont écrit une sorte de livre commémoratif d'une exposition phare. C'était une exposition en 1913 au musée des arts décoratifs. L'exposition a eu lieu en 1912 au Musée des Arts Décoratifs, et c'était une exposition sur les miniatures persanes. Donc Georges Marteau et Weber ont prêté, et ils ont réalisé aussi l'album de cette exposition, un album commémoratif, et expliqué aussi la découverte du goût pour les miniatures persanes. Donc en fait, des acteurs vraiment très importants de ce milieu. Et pour la petite histoire, les miniatures persanes et également les textiles de Vevers, des textiles qui étaient également collectionnés par Georges Marteau. Les textiles de Vevers ont été acquis par la Smithsonian Institution de Washington. Donc on les trouve aux États-Unis. Donc Vevers et Georges Marteau ont modifié le visage, enfin la connaissance sur ces objets dits orientaux. Il y a également deux marchands qui ont été des passeurs très importants des arts, des marchands arméniens qui avaient dans leur boutique à Constantinople, mais qui se sont exportés, mondialisés vers Paris, Caleb Djian et Kélékian. Et je vais surtout vous parler d'Ikran Karabed Kélékian, qui en fait a été un passeur majeur des objets dits orientaux. Donc Kélékian, lui, vous voyez, il a publié en 1909 ses poteries de Perse, une histoire brève sur l'art de la céramique dans le Proche-Orient. Et c'est justement lui qui a apporté une forme de connoisseurship élargie pour ces objets-là, un peu comme Hayashi Tadamasa l'avait fait pour le Japon. Vous vous souvenez, on avait vu cette figure-là. Donc Kélékian, comme croyez-moi sur parole, il a été le commissaire général pour la Perse à l'exposition universelle de Saint-Louis. C'est en 1893. Et donc il avait sa boutique, donc son comptoir à Constantinople, mais également à New York et à Paris. Et au début du XXe siècle, c'est lui qui a notamment initié des grandes collections, et notamment celle des Havemeyer. Les Havemeyer, c'est des collectionneurs de tableaux impressionnistes, et c'est lui qui leur a vendu un certain type d'objets et qu'il va aussi exporter à l'hôtel Drouot. Ces types d'objets, donc ce sont des céramiques. Ici, la Potteries of Persia, mais principalement ce qu'on appelle des verres irisés. Alors, c'est un mot qui était une expression qui a fait florès à l'hôtel Drouot, les verres irisés. Et ce qui est assez drôle ici, c'est qu'il va se servir des objets de la collection Havemeyer qu'on retrouve ici, qui ont été légués au Metropolitan Museum. Il va se servir de ces objets-là qu'il avait vendus au Havemeyer pour illustrer son livre sur les poteries de Perse. Donc là, j'ai mis en regard les objets qui sont au Metropolitan Museum de New York et également les reproductions dans son ouvrage des poteries de Perse. Donc, Kélékian enfin, grâce à ce livre-là, la collection, toujours au détour par New York, ben c'est à la mode à New York, donc du coup, ça va être à la mode à Paris. Un segment est lancé autour des années 1911-1912, en même temps que les céramiques persanes. Hein, d'accord? Donc il y a deux sous-segments qui arrivent sur le marché, les verres irisés de Perse et de Syrie, et également les miniatures persanes. Donc ces deux sous-segments sont stimulés par ces connoisseurs. Et comme vous pouvez le constater ici, il y a des ventes à l'hôtel Drouot, j'aime bien cette expression-là, vous voyez, des verres irisés et faïence persane, donc une expression qu'on n'aurait pas, qu'on ne trouvait pas ailleurs, et donc verres irisés, en veux-tu, en voilà, qui inondent l'hôtel Drouot, et vous voyez que ce catalogue-là s'ouvre par les verres irisés. Tout le monde devait avoir son verre irisé. De Syrie ou d'Égypte ou de Perse. Donc également comment dirais-je, c'est des experts en fait, donc Pignatelli et pas Anquiri, pardon, des experts vont se dire spécialistes également des verres irisés romains et arabes, faïence de fouilles de Perse et de Syrie. Donc on retrouve ouais, cette ce goût, enfin, ce tournant vers les antiquités et également ces verres irisés. Donc ce tournant s'accompagne également, là c'est une petite remarque un peu incidente, d'une attention beaucoup plus fine à la provenance. Donc à la fois on date, on veut des objets anciens, un nouveau type d'objet et également des objets où la provenance est beaucoup plus précise. Alors là je me suis entre guillemets amusée à essayer de cartographier la provenance précise de ces objets. Bon, il y a beaucoup, voilà, en volume, hein, il y a beaucoup d'objets dits persans. Vous voyez, c'est le gros cercle en bleu, mais également en provenance des objets beaucoup une provenance plus précise, notamment, vous voyez, Boukhara, Kachan, Ispahan, Shiraz, de Damas. Zari, vous voyez, donc la provenance est beaucoup plus précise. Le problème ici, c'est que, et là mes connaissances s'arrêtent malheureusement ici, et presque mon exposé ici, parce que le principal commissaire-priseur à partir des années 1910 jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'est un certain maître Gaston François, commissaire-priseur qui avait son étude rue Lepelletier. Or, ce maître Gaston François, qui était le principal, vous voyez, commissaire-priseur avec maître Boudin, donc Boudin et François étaient les deux principaux commissaires-priseurs pour le segment des objets orientaux. Pour le segment des objets asiatiques, on retrouve l'aire Dubreuil, et là, ces minutes sont aux archives de la ville de Paris. Par contre, pour François et Boudin, ces deux études, en fait, n'ont pas reversé leur PV aux archives de Paris. Donc, ça m'embête parce que je peux pas vous faire les réseaux que j'avais fait jusqu'alors avec les cercles de couleurs. Je ne peux pas identifier parce que tout simplement, j'ai pas d'archives. Donc, j'aurais bien aimé continuer en fait mon exploration avec vous, mais voilà, j'ai dû m'arrêter là. Donc, que faire? Que faire pour essayer de retrouver, mener cette histoire à bien, essayer de la poursuivre alors qu'on n'a pas les archives de ces deux études? Donc pour la suite de mes recherches, c'est ce que je fais actuellement. Donc avec une équipe, on prend ce qu'on appelle les annuaires de collectionneurs, les annuaires artistiques. En fait, ce sont des annuaires donc pour la France, mais également on a quelques notices pour l'étranger. Ce sont des annuaires de collectionneurs qui listent à partir de 1878 jusqu'au début des années 1930, ville par ville. De manière déclarative, les collectionneurs, et après chacune, met son adresse, sa profession et ce qu'il ou elle collectionne. En l'occurrence, Georges Viau, qui était un dentiste. Et là, je travaille aussi avec ses descendants. On a un projet également à l'ENS sur la collection de Georges Viau, mais je ferme la parenthèse. Et vous voyez que Georges Viau, officier de l'instruction publique qui habite 109 boulevard Malesherbes, donc là on est en 1925, il va collectionner les tableaux de l'école 1830 et impressionniste, objets d'art, Chine archaïque, oui, Chine archaïque, et les livres. Donc ce que je fais, c'est que je prends en fait, je dépouille à la main, dans les longues soirées d'hiver, ces annuaires, et je retranscris. Avec une collègue, on fait ça, on retranscrit ces annuaires-là, et comme ça, on peut savoir qui collectionne quoi et où. Et on en fait une visualisation. Par exemple, cette carte-là, on a testé pour 2 années, 1904 et 1925. On peut regarder, voilà, si je tape le début dans l'interface, mettons des objets dits haram, on trouve finalement assez peu de collectionneurs et ça rejoint en fait ce connoisseurship de niche, puisque en fait il y avait assez peu de collectionneurs spécialisés dans les objets orientaux. On l'a vu dans les réseaux, vous vous souvenez. Et là, on trouve par exemple des personnes spécialisées, des collectionneurs spécialisés dans les objets dits arabes. Par exemple, le vicomte Raoul de Saint-Seine qui collectionne en 1925 les objets d'art arabes, ou bien Charles Gilet, art arabe, en 1925. On peut faire pareil pour les miniatures persanes. Et on retrouve, qui retrouve-t-on? Henri Weber, et là c'est assez logique, 1925, qui collectionne les miniatures persanes. Donc c'est un projet en fait que je mène à l'Observatoire des humanités numériques de l'ENSPSL, donc que j'ai l'honneur de coordonner. Et c'est à l'intérieur de cet observatoire un projet que je mène avec Christine Vivet-Péclet, qui est documentaliste à la Cité d'architecture au Musée des Monuments français à gauche, et Quentin Bernet, qui est étudiant à l'école du Louvre, que je remercie, qui est un très grand historien de l'art en devenir. Vous retiendrez son nom et vous le lirez bientôt, comme Marion Bertin est ici présente. Et donc Quentin a réalisé cette interface, puisque en plus d'être un très grand historien de l'art, il sait coder et il sait développer des interfaces. Donc je remercie Christine Vivet-Péclet et Quentin Bernet, avec qui je mène ce projet des annuaires, et j'espère dans quelques années pouvoir vous donner plus de résultats. Et je vous remercie pour votre attention.
Je ne saurais vraiment que trop vous recommander la lecture de ces deux ouvrages. Alors, cette conférence, comme vous le savez, elle est enregistrée à un l'intègre ad vitam aeternam les collections de la bibliothèque de recherche du. Et donc, si vous souhaitez poser une question, je vais vous demander de parler dans le micro.
Merci beaucoup Léa pour tout toute ta présentation qui était vraiment très riche. Je connais tes recherches maintenant depuis quand même quelques années, mais j'en découvre toujours à chaque fois. J'avais plusieurs questions à te poser. Quand tu parlais, alors peut-être que ce sera encore des chantiers que tu es encore en train de mener et que tu n'auras pas forcément la réponse. Je me demandais qui étaient finalement les collectionneurs et collectionneuses. Est-ce que tu as un peu une idée de leur classe sociale, s'il y a des femmes qui sont représentées aussi parmi les collectionneurs et collectionneuses du côté oriental? S'il y a eu oui, une diversification aussi des types de collectionneurs au cours de cette période, avec le développement des grandes bourgeoisies parisiennes, par exemple, ou d'autres types de bourgeoisie, est-ce qu'il y a un type de collectionneur qui s'intéresse à ces objets?
Merci Marion, donc c'est gentil. Merci pour ta question et pour tes remarques. Alors, je dois avouer qu'en fait, je me souviens plus trop. Dans ma thèse, je crois que j'avais fait ce travail. Je crois qu'au début, dans les années 1830, il y a beaucoup en fait d'aristocrates, notamment aussi militaires, qui collectionnent les armes. Et ensuite, il y a ce goût-là, notamment pour les objets. Provenance d'Asie, après Orient, pour les ingénieurs, par exemple Raymond Queclin, ingénieur, Weber, enfin, fait des bijoux, il a un côté ingénieur, Georges Marteau est également ingénieur, donc il y a cette fascination, voilà, là, pour un côté assez technique, comment ont-ils fait, voilà, et donc si mes souvenirs sont bons, parce que je suis passée à d'autres choses, je sais plus, enfin, et après pour les annuaires de collectionneurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de femmes, il y a toujours moins de 7% sur les collectionneurs auto-déclarés, il y en a toujours moins de 10% du total, donc c'est quand même et c'est quelque chose qui fait assez connu, mais les statistiques confirment, voilà, que la collection, c'est quand même quelque chose de très masculin. Et surtout, en vente publique, peut-être qu'on l'avait vu le mois dernier, assez peu de femmes finalement vont en vente publique. Si elles achètent, c'est toujours par l'intermédiaire d'un marchand, parce que ce milieu de l'hôtel Drouot était assez, finalement, assez misogyne. Et donc, les collectionneuses, si collectionneuses il y a, elles passent sous le radar des procès-verbaux. Et on peut les percevoir, les voir à travers les catalogues d'exposition quand elles prêtent, notamment dans le catalogue du musée oriental et également dans les catalogues, par l'exposition de 1912 aux arts décoratifs sur la miniature persane, ou bien il y en a une autre qui a eu lieu en 1903, il me semble, là, organisée par Gaston Migeon au musée du Louvre. Donc là, on les repère comme ça. Mais une des grandes collectionneuses qui avait été mise en évidence aussi, justement par Rémi Labruce et toute son équipe pour l'exposition Pur Décor, c'était la marquise Arconati Visconti, qui, elle, avait